Salut tout le monde, bienvenue sur le Tri Show, un nouvel épisode, une nouvelle semaine et un beau week-end triathlon. On va en reparler un peu plus tard durant ce Tri Show. Autour de la table, on réaccueille Amandine. Ça fait un petit moment qu'on t'avait pas vu. Comment ça va, Amandine?
Oui, bah salut tout le monde. Bah écoute, ouais, effectivement, ça faisait un petit moment parce que le temps file à toute vitesse et c'est vrai que au niveau de mes projets, j'étais un peu sous l'eau. Donc je retrouve un peu la surface, donc je suis ravie de vous retrouver.
Également quelqu'un qui est souvent sous l'eau, on le voit un peu moins, c'est Alex. Comment ça va, Alex?
Ça va très bien. J'ai pas mal de choses à dire, c'est juste pour ça que je viens aujourd'hui. Après, je vais redisparaître, mais là, je pensais le bon moment.
Ouais, là, tu pouvais pas manquer ce super week-end triathlon, quoi.
Oui, c'était dantesque.
Et puis, bien, on a Jérémy Quindos. Alors lui, par contre, il a le temps en ce moment, on le voit tout le temps. Hein. Tu t'entraînes ou quoi?
Salut à tous. Bah écoute, ouais, je m'entraîne, je fais ce que je peux. Et moi, je suis tout le temps dispo. Je suis pas à la cocotte minute comme Alex où il vient une fois tous les mois pour nous péter à la tête et balancer à tout. Moi, je peux balancer tous les jours un petit peu.
Enfin, j'ai juste des bonnes nouvelles à dire, moi.
Allez, on commence tout de suite avec les up and down de la semaine et on va commencer par toi, tiens, Jérémy, à toi l'honneur. Vas-y, les up and down de la semaine.
Bah écoute, moi mon up, c'était le lancement de la chaîne YouTube de Léo Bergère. Je trouve que c'est une super initiative. Il y a pas assez de pros français, je trouve, qui sont visibles sur YouTube à faire du contenu. Là, je trouvais que c'était une vidéo qui était vraiment top, limite un petit peu courte. Moi, c'est le genre de contenu qui me fait plaisir, de belles images réalisées par Nicolas qu'on a reçu la semaine dernière, et aussi des petites infos sur qu'est-ce qu'il a travaillé cet hiver et puis quelques data quoi. Il nous a donné une ou deux séances qu'il avait fait et qui l'ont sûrement fait passer un cap. Donc je trouvais c'était une super initiative et j'ai hâte de voir les prochaines vidéos. Pour mon down, voilà, moi je trouve qu'on a passé un week-end un petit peu décevant, autant du côté d'Abu Dhabi où il n'y a strictement rien eu à part un peu de pluie, apparemment. Et puis du côté de Miami, on avait de grosses attentes à la PTO, mais voilà, je trouvais que dans l'ensemble, c'était un petit peu décevant et on reviendra dessus plus tard, je pense.
Et elle en est où, toi, ta chaîne YouTube, Jérémy? Puisqu'il me semble que t'en avais une il n'y a pas si longtemps que ça.
Ouais, mais tu vois, tout ce temps pour YouTube, je le donne pour le Trichot maintenant, donc voilà.
comme c'est gentil. Et les autres, vous avez des chaînes aussi, Amandine et Alex?
Alors moi, j'ai pas de chaîne parce que je sais pas ce que je pourrais mettre dans ma chaîne, je pense que ça intéresserait strictement personne, mais par contre un petit clin d'œil à Jeanne. Forcément, Jeanne avec sa chaîne, elle pour le coup, elle fait vraiment du beau contenu et puis ses vlogs sont vraiment sympas, je trouve.
Et moi, j'ai une grande annonce là, la semaine prochaine, je recommence à écrire sur Trim parce que ce week-end, ça m'a comme réveillé un peu. Là. Puis j'ai eu tellement de discussions avec mes amis anglais parce que je parle beaucoup plus avec des amis anglais que français finalement de triathlon. Apparemment, je risque de faire une apparition sur un podcast pour débattre un peu de l'état du triathlon, ainsi de suite. Mais ouais.
Tu me fais une infidélité, donc?
Non, c'est pas ça.
Moi, c'est comme ça que je le vois. Hein.
Je suis international, je vous rappelle.
Allez, on enchaîne avec les up and down de Amandine. C'est à toi.
Alors, pour mon down, moi, je vais un petit peu continuer dans la lignée de Jérém. En effet, moi, je vais mettre l'accent plutôt sur Abu Dhabi. Donc, effectivement, grosse déception parce que c'était le début de la saison. C'était le début de la saison pour les Olympiques et puis pour les paras. Et pour être tout à fait objective, j'attendais en effet la course d'Antoine et de Johan Lebert. Parce que rappelons-le, Julien,
Tu es une femme de triathlète.
Voilà, non, mais parce que tu me sors à toutes les sens. Du coup, c'était l'occasion. Donc voilà, non, c'est vrai que j'attendais avec impatience cette course pour les Olympiques et pour les paras. Donc effectivement, c'est mon gros down. Et puis mon up, en fait, ça va être le moment que j'ai passé avec vous pendant la course du T100. Parce que, surtout notamment la course des femmes, parce que c'est vrai qu'on a passé un très bon moment. Moi, j'ai beaucoup ri. Et c'était assez positif, alors dans le sens où le moment qu'on a partagé ensemble, parce que j'avais l'occasion d'avoir votre expertise également sur ça, disons un peu plus pro et experte du triathlon. Et puis les images dans le noir étaient assez marrantes aussi.
Ouais, puis c'est important que je devienne l'interprète de Pousson, parce qu'à chaque fois qu'il dit quelque chose, il faut interpréter l'inverse. Et ça, c'était quand même un art. Là, ça m'a pris plusieurs mois à maîtriser. Là, mais,
Ah, le second degré, le dixième degré.
Ouais,
du
genre, oh, ben, tu sais, il n'est pas prêt. Ça veut dire qu'il va sûrement gagner, ainsi de suite. C'est tout le temps des affaires un peu comme
il
ça.
Il ne peut pas tout dévoiler. Donc, en fait, il faut lire à demi-mot.
Non, je ne sais même pas à quoi ça sert qu'on lui parle encore parce que finalement, il ne peut jamais rien nous dire.
Alex, c'est à toi.
Oh, le point positif, il n'y a pas lui que je cherche super loin, en fait. Mais j'en ai trouvé un. Je ne sais pas si vous savez, en ce moment, dans l'industrie du vélo, BMC, ils sont payés à moitié. Scott, ils doivent emprunter comme des malades pour réussir à garder des employés, tout va mal, Trek, il limoge 20% et tout. Fait que je veux dire bravo à l'industrie chinoise. Puis c'est même pas une blague parce qu'en ce moment ils ont commencé à comprendre qu'il fallait faire des vélos comme avec des prix raisonnables. Puis ils sont en train de mettre sur le marché des produits super intéressants. Puis c'est intéressant et dans cette même veine, bah il y a Decathlon qui vient de changer son logo, etc. Moi étant un homme aussi dans le milieu du branding, etc. Le changement de logo en fait, il vient mettre en image un changement de politique de Decathlon. Decathlon étant tout le temps une marque qui essayait de rendre le sport accessible, premier prix, etc. Maintenant ils veulent être un peu plus horizontal, en tout cas, point de vue marché, ça veut dire aussi atteindre le plus haut de gamme, etc., avec des marques, tout. C'est un risque qu'ils prennent, mais en même temps, on est tellement en sorte de récession dans les marques sportives que le champ est totalement ouvert pour eux. Fait que je suis impatient de voir comment ça va se passer. Et le point négatif, peut-être qu'après cet épisode, je n'aurai plus aucun ami pro. J'ai vraiment la haine contre les pros dans le sens que il y a la PTO, fait que la PTO, il faut faire une analogie entre nous avec notre job. Fait que je suis pro, je signe un contrat avec une compagnie qui me dit tiens, voici beaucoup d'argent et maintenant tu vas faire toutes mes courses et ainsi de suite. Fait que c'est super, tu sais, c'est comme t'as une sécurité d'emploi, etc. Par contre, tu le sais, t'as signé avec le diable parce que tu perds ta liberté de parole, puis tu maîtrises plus ton emploi du temps. Qu'est-ce que nous, on voit, amis journalistes, etc., c'est que tous les pros qu'on signe avec la PTO, ils regardent tous comment réussir à être sur le circuit, mais en faisant le moins possible, parce que au final, et certains ont été honnêtes, au moins ils l'ont dit, leur but, c'est de gagner Kona toujours, et leur calendrier, tout est organisé en fonction de ça. Fait qu'en gros, c'est comme si tu étais un employé d'une compagnie qui te payait un super gros salaire, mais que toi, tu décidais d'être travailleur autonome et de travailler comme pour ton ennemi, mais pas ennemi, mais comme le concurrent direct de PTO qui t'a pourtant toutes ces années-là mal payé, maltraité, mais là, tu es vraiment fidèle puis tu continues ta relation avec. Juste essayer de réfléchir un peu dans le truc, mais on est dans un scénario de fou. Au final, PTO, s'ils avaient pu se contraindre et dire on fait juste 4 épreuves durant l'année mais super bien, etc., au lieu de nous revenir avec un 8 courses, etc., que personne veut et qu'il y a un calendrier qui est encore démentiel, qu'on va se retrouver avec une épreuve du PTO pendant les Jeux Olympiques ou pendant le même week-end de la rentrée d'Abu Dhabi. En tout cas, c'est mon gros point négatif là, parce que la PTO, qu'est-ce qu'elle a fait en signant des contrats? Elle s'est assurée que tous les grands triathlètes ne disent absolument rien contre ce circuit-là, parce qu'ils sont payés. Fait que voilà.
Après, la PTO, tu vois, depuis plusieurs années, elle est dans le circuit et elle aide quand même des pros à émerger. Moi, je me souviens que Sam Ledlow, aujourd'hui, il est champion du monde en titre, mais il y a quelques années, voilà, il était beaucoup moins connu. Et je sais qu'ils communiquaient beaucoup sur PTO, comme quoi c'était une nouvelle organisation qui aidait les athlètes comme lui à se professionnaliser. Et au final, je trouve que lui, il a grandi avec cet orga-là. Et pour le coup, il a été fidèle dans le sens où il allait à Miami, sachant qu'il n'était pas forcément à 100% de ce que j'ai entendu dire dans son entourage. Et après, faut pas se leurrer. Tous les athlètes rêvent de gloire. T'as beau avoir des partenariats dans tous les sens, si je fais l'analogie sur le cours, ton rêve c'est les JO, tu vas tout faire pour aller aux JO. Tu vas te dire à tes partenaires, je suis désolé mais tu m'as payé pendant 3 ans et demi, mais là je suis obligé de te mettre de côté parce que je dois faire les JO, même si on sait tous que les partenaires ils auront une visibilité folle avec les JO. Là c'est c'est pareil avec Kona. Kona, c'est les JO du long, quoi. Donc, il faut savoir jongler avec les deux, mais...
Non, les athlètes, ils ont fait un pacte avec le diable, au final.
Est-ce que tu penses vraiment que... Là, tu réfléchis avec le prisme extérieur. Est-ce que les athlètes, eux, l'ont mal vécu, la course? Tu vois, pourquoi ils diraient quelque chose? Tu vois, non, mais pourquoi ils diraient quelque chose? Peut-être que ça leur convient aussi.
Bah, il faut en être conscient. Puis moi, je dis bravo à Denis Chevreau, je dis bravo à Patrick Lange et ainsi de suite, parce qu'ils ont gardé leur liberté. Comme vu ce qu'on a vu ce week-end, c'est quand même inconcevable.
Oui, mais ça, c'est ta vision. Est-ce que eux...
Il n'y a aucune femme qui est allée dire « Qu'est-ce qui s'est passé? On m'a fait faire du vélo dans le noir total. » Genre...
Non, mais ça, c'est...
Bah, si voyons, ça se trouve, c'est comme genre, tu pètes une coche. Moi, honnêtement, il y a des femmes, elles auraient dû prendre le vélo, le balancer et dire « Moi, j'arrête la course. » C'est comme, c'est n'importe quoi. Genre, si ça avait été une course Ironman et ainsi de suite, probablement qu'il y en a qui l'auraient faite. Parce que, tu sais, il y avait un non-sens.
Mais il y a trop d'enjeux, c'est pas possible. Enfin, tu vois, dans la théorie, ça a du sens.
Il y a un moment, le triathlon va avoir besoin d'ambassadeurs, de personnes qui vont se lever et qui vont dire le sport, il doit être dans cette direction-là ou dans cette direction-là. Arrêtez de juste prendre le chèque et ainsi de suite, puis faire OK, tout va bien. Parce que en golf, c'est exactement ce qu'on voit là. Maintenant, il y a des ambassadeurs, il y a du monde qui commence à se réveiller, qui commence à dire les choses. Genre, il n'y a pas juste l'argent, il y a la dimension sportive, historique du sport, etc. Vous êtes en train de tout casser, vous êtes en train de truc. Parce que.
Oui, mais parce qu'ils ont de l'argent.
Non, pas que ça, mais dans le développement,
mais pas pour... si t'as pas d'argent.
Non, mais Julien, c'est un excellent exemple au golf. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent signer avec LIV, le circuit de l'Arabie Saoudite, avec des contrats. Genre, ils ont proposé plusieurs milliards à Tiger Woods et tout. Ils ont dit non parce qu'il y a une dimension sportive.
C'est comme... Oui, mais parce que t'es déjà millionnaire. Pourquoi tu serais milliardaire, tu vois? Tu t'en fiches.
Je dis pas que la position.
Mon point, c'est surtout de se dire, est-ce que vraiment les athlètes l'ont mal vécu, tu vois? Est-ce que, par exemple, je me souviens de Super League qui, quand ils accueillent les gens pour avoir eu la chance d'y aller en tant qu'invité par Super League, t'es reçu comme un roi, quoi. Les athlètes, ils sont super bien traités. Si en PTO, alors j'ai pas de retour pour le moment de tes 100, mais si c'est la même, pourquoi tu veux dire quelque chose? En fait, ceux qui doivent s'offusquer, c'est plus ceux qu'on regardait, c'est plus ceux qui doivent dire « Attends, pourquoi on a eu une diffusion dans le noir? Pourquoi on a eu une course où il n'y a pas d'ambiance? Pourquoi on a des commentaires qui sont hachés ?» Le pro en lui-même, lui, il a vécu sa course, il fait son contrat, il fait son truc, tu vois.
Oui.
Mais je pense que le pro, il doit comprendre qu'il y a, un aspect long terme.
Ce sera l'objet justement de notre dossier de la semaine un peu plus tard dans le Trichot. Merci pour tes up and down, Alex. Moi, je vais passer sur mes up and down aussi. Up, c'est les triathlètes français qui ont brillé sur les crosses, les petits jeunes, comme d'habitude. Les jeunes, il y avait Lenny Renner Mancini, Martin Nedelec, Lali Porrentruc qui ont fait des résultats. Tristan Deschet aussi qui a fait vice-champion de France, Valentin Lepers, etc. Donc bravo aux petits jeunes. Et puis dans les downs, bah, c'est les calendriers qui se mixent, et en particulier celui qui aurait pu être une belle surprise. Et mon down, bah, c'est celui de Cathy Zafares qui prend pas l'opportunité sur le championnat des Amériques qui se déroulait à Miami. Ça tombait le même jour qu'à Abu Dhabi, donc ça c'est très fort, je trouve, au niveau des calendriers. C'est-à-dire qu'on fait une course WTCS en même temps qu'un championnat continental. Ça, je trouve que c'est magique. Et l'annulation de la WTCS pouvait profiter à Cathy Zafares, qui pouvait marquer des points pour passer devant Gwen Jorgensen. Et ben non, elle a fait DNF, et donc elle marque pas de points, et elle aura pas forcément de nouvelles occasions. Il va y avoir une nouvelle course, une nouvelle Coupe du Monde qui va se présenter, mais pas sûr qu'il y ait une nouvelle WTCS qui soit annulée pour Gwen.
Mais voilà. Ils vont tous au Portugal, là, maintenant, tout d'un coup.
Ouais, Carteras, c'est un peu rempli, ouais. Mais il y en a plein des downs du week-end aussi. 16 finishers au Tessin, hein, chez les hommes et chez les femmes. Sur 20, c'est quand même fou, quoi. Vous en pensez quoi de ça?
Mais ça revient avec mon point de tantôt, que les pros respectent pas leurs engagements et tout, en tout cas.
Bah, après, les gars aussi, ils étaient 20 au départ, donc t'as quand même 80% de finishers. On a quand même vu des chutes et tout. On a vu un athlète comme Léon qui est allé au sol et qui a quand même fini la course. Donc j'espère pour lui quand même.
C'est la seule chute, hein.
Ouais, chez les hommes.
Singulier, pluriel.
Et on n'est pas à 80% hein, chez les femmes. il y en a 13, pardon, qui ont fini la course sur 20.
Pardon, je croyais que c'était...
Oui, mais ça revenait aussi que la course était beaucoup trop tôt dans la saison, que les pros sont ramenés, certains sont ramenés juste à moitié en touriste pour prendre leur chèque engagement et ainsi de suite.
S'il y avait 50 personnes au départ, on aurait eu 40 arrivants, quoi. Donc,
ouais, mais regarde.
Juste qu'il n'y a pas assez de gens au départ aussi.
C'est assez, pas forcément. C'est assez rare qu'on ait autant de DNF quand même sur une course et surtout après le vélo, en fait. C'est-à-dire que là, les DNF, ils sont intervenus. Enfin, il y a plein de monde, en fait, qui a pas entamé la course à pied, quoi.
Après, les conditions, elles avaient l'air vraiment atroces avec la chaleur et l'humidité. Je pense que ça, ça a joué. Je pense qu'il y a plus de DNF, genre un Ironman Cozumel, qu'un Ironman dans un pays, je sais pas, en Europe où il fait bon, où on est au printemps, quoi.
En fait, la réalité, c'est que entre la 11e et la 20e pièce, tu recevais autant d'argent, soit 2500 pièces. Fait que là, en fait, qu'est-ce que nous, on doit faire, c'est rechercher si le DNF est quand même payé. Ce qui est probablement vrai. Fait que finalement, si t'es comme genre 15e et que tu te rends compte que ça va te demander un trop gros effort pour réussir à passer 10e et monter un tout petit peu d'argent, ben, tu fais DNF puis c'est réglé, quoi. C'est la même. Parce que, honnêtement, il y a eu quelques DNF qui avaient l'air un peu suspects quand même. Parce que leur planification, elle est en fonction de Kona ou Nice aussi. Et du coup, t'es une course en mars. À la base, c'est vraiment pas une bonne idée déjà.
Allez, bah on va basculer sur la suite avec l'invité de la semaine. Alors, notre invité, c'est un petit jeune. Il est né en 2005. Il s'appelle Nils Sergeri. J'espère que j'ai pas écorché son nom de famille. En tout cas, il est vice-champion du monde de triathlon junior. Il fait 4e aux Europes, champion d'Europe relais mixte également en 2023. Et il est aussi recordman de France du 10 km sur route junior.
Avec un chrono de combien ? 29-20, quelque chose comme ça. Donc,
et 29-23.
Pour parler un peu aux gens, ça court fort, quoi.
Alors, on accueille, comme je vous l'ai dit, le vice-champion du monde, vice-champion de France, détenteur des records de France de 10 km sur route et de 5 km sur route. Ça va, c'est pas mal comme CV déjà. Salut Nils.
Eh ben ça va super. Là du coup je suis chez moi en ce moment. Là je suis rentré après une bonne partie de temps là cet hiver à voyager un peu, faire des stages entre Saint-Raphaël et la semaine dernière j'étais en stagiat à Jetmo, donc là ça fait du bien d'entrer un peu à la maison.
Alors tu fais partie du club de Vallée de Montmorency Triathlon. Tu vas rester au club encore cette saison ? T'as été courtisé un petit peu au mercato ?
Oui, du coup, ouais, je reste cette saison encore ici. Je préférais finir mes années jeunes ici au Vallée de Montmorency Triathlon, là où j'ai commencé, avant de voir pour changer éventuellement l'année prochaine pour aller courir en D1, tout ça. Mais c'est en réflexion encore. Ouais.
Faut savoir que Nils, c'est un petit peu l'Astérix du triathlon. Il y a pas mal de clubs qui le veulent, mais il reste au VMT. Et pareil, il y a pas mal de gens qui veulent le recruter dans des groupes d'entraînement, mais pour le moment, il reste fidèle à ses racines. Donc, on verra ce qu'il décide l'année prochaine. Mais c'est sûr que ça va être un move très regardé par le mercato.
Ouais, mais c'est surtout le chèque, quoi. Faut sortir le chéquier maintenant, hein. Attends, vice-champion du monde, c'est surtout ça, je pense, non? C'est que les clubs, ils peuvent pas s'aligner sur tes demandes ou c'est toi qui veux être fidèle?
Ouais, non. Ça, l'argent, bon, on verra un peu plus tard, mais non, enfin, pour l'instant, ouais, c'est plutôt pour rester avec mon entraîneur, tout ça, voilà. Je me sens bien ici, donc, j'ai pas forcément envie de changer pour le moment, ouais.
Bah c'est clair que pour le moment ça t'a quand même bien réussi là, hein. T'es pas trop passé à côté des grands rendez-vous, c'est cool. Même cet hiver on t'a vu quand même faire des sacrés chronos, hein, notamment à Monaco là, 13,55, donc record de France junior du 5 km sur route. Est-ce que toi c'était vraiment quelque chose que t'as préparé ou est-ce que c'était, on va dire, inclus dans ta préparation hivernale et que t'as pas trop visé de pic de forme sur cette épreuve là qui était il me semble le mois dernier, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Ouais. Monaco, je crois que de mémoire, c'était le 11 février. Donc, un petit peu entre les deux. Je l'ai inclus dans la prépa hivernale, donc j'ai quand même bien roulé, bien nagé à côté. Mais on avait quand même prévu un petit pic de forme pour cette course-là. Je voulais d'abord faire un beau chrono à Nice, à la prom en janvier, mais j'étais un peu passé à côté de ma course. Donc, ouais, ça fait plaisir un petit peu de m'être rattrapé à Monaco. Ouais.
Donc, 13,55 sur le 5K. T'as fait 29-23 également à Nice sur 10 km, donc les deux records de France. Vers quoi tu t'orientes? Est-ce que tu te poses souvent la question ou est-ce que tu sais déjà vers le triathlon ou vers la route quand on a tes références telles que les tiennes? Est-ce qu'à un moment donné, tu ne devras pas être obligé de choisir entre l'athlète et le triathlon?
Pour le moment, ouais, c'est vraiment un triathlon que je prends le plus de plaisir. J'adore rouler, j'adore nager aussi à côté. Donc, plus longtemps, ouais, je pourrais faire du triathlon plus je serais content. Donc, pour l'instant, c'est pas prévu de m'orienter que sur la course à pied.
Et si jamais t'as une sélection en FFA pour représenter la France sur une compétition internationale, est-ce que tu vas la saisir ou est-ce que si ça rentre en conflit avec le tri, tu mettras dans tous les cas le triathlon au premier plan?
Ouais, complètement. Si par exemple, enfin j'ai déjà eu le cas par le passé. C'était pour les championnats d'Europe U18 à Jérusalem. Il y avait moi j'avais été sélectionné sur 3000 pour courir là-bas au championnat d'Europe et ça rentrait en conflit puisque c'était la même semaine je crois que les championnats de France d'aquathlon il y a 2 ans, donc j'avais préféré me concentrer sur les France d'aqua plutôt que d'aller courir à Jérusalem sur 3000.
Tu parlais de ton entraîneur tout à l'heure en fait et je voulais savoir qui était ton entraîneur actuellement.
Donc là du coup je m'entraîne toujours avec il s'appelle Gwenel Sedboué, c'est l'entraîneur du Valais de Montmorency Triathlon, donc je l'ai connu en arrivant au club, ça fait 7 ans maintenant. Je suis arrivé en 2017 quand j'étais en 5e, et donc, du coup c'est lui qui m'entraîne depuis toujours et voilà, ça se passe super bien, donc je suis très content. Ouais.
Ça fait mal hein, quand même, hein. Tu prends un coup au moral quand tu dis en 2017 j'étais en 5e.
clair, ouais, c'est pas
bien. J'ai mal.
Est-ce que tu peux nous donner une idée sur ton volume d'entraînement actuellement?
Ouais, du coup, cet hiver, quand j'étais au lycée et tout, c'était un peu plus compliqué de m'entraîner parce que il y avait les cours à côté, donc je m'entraînais souvent une fois par jour minimum et parfois j'essayais de doubler le mercredi et le week-end par exemple. Mais là, cette année.
Est-ce que tu n'étais pas en sport-études?
Non, ouais, voilà, exactement. En fait, j'étais en.
Ça existe, sport-études en France, ouais.
Oui, il y a des sport-études et sinon, il y a des lycées avec des sections triathlon, comme par exemple celui de Versailles.
Mais donc, du coup, j'étais au collège et au lycée, c'était des cursus classiques, j'étais pas en section. Donc, c'était un petit peu compliqué de m'entraîner à côté. Donc, il n'y avait pas un gros volume, mais c'était plutôt de la qualité. Et là, du coup, depuis cette année, j'ai augmenté un petit peu mes volumes d'entraînement. Donc, par exemple, cet hiver, je nageais en moyenne 25 km par semaine, entre 25 et ça montait à plus quand j'étais en stage. En vélo, on a fait le choix, contrainte de temps et un petit peu aussi par rapport aux autres disciplines, de laisser un peu le vélo en retrait pour l'instant. Donc je roule 3-4 fois par semaine, mais c'est pas des grosses sorties. Mais par contre, on a fait plutôt de la qualité quand j'étais en stage dans le sud. Donc c'était en janvier, quand j'étais à Boulouris. Et sinon, à pied, c'est à peu près, c'est régulier à 65, 70, maximum 75 km par semaine, mais pas au-delà.
Oui, je voulais te demander, ta dynamique d'entraînement, en fait, t'es plutôt à t'entraîner en groupe ou seul par rapport à une adaptation à ton emploi du temps?
Je m'entraîne en majorité seul parce que quand je m'entraîne en journée, les copains sont à l'école, donc il n'y a personne pour s'entraîner avec moi. Donc tous les soirs, j'ai quand même un entraînement en groupe, donc soit avec le club de natation que j'ai rejoint cette année, le Cercle Nautique 95 des Anvilles, ou soit le VMT, du coup, ça c'est des séances pistes le mardi et le jeudi. Mais sinon, globalement, c'est à peu près deux tiers seul et un tiers en groupe.
Et tu préfères t'entraîner seul ou en groupe?
Je préfère largement m'entraîner en groupe. Après, ça me dérange pas non plus d'y aller seul. Souvent, je me mets de la musique ou quoi, et ça passe quand même bien. J'ai pas de mal à m'entraîner seul non plus, quoi.
Dis-nous tout, quels sont tes objectifs de cette année et aussi si tu pourrais nous dévoiler, je sais pas si tu as envie, ton but ultime, est-ce que tu as aussi pour ambition d'être champion olympique ou un autre objectif que à plus long terme?
Les objectifs de cette année, c'est clairement comme l'année dernière, les championnats d'Europe junior et championnats du monde junior aussi.
Donc ton but c'est de remporter la victoire. Est-ce que t'as des objectifs de place précis ou t'y vas vraiment sans objectif de place et juste donner le meilleur de toi-même, ou c'est vraiment un objectif de place particulier. Par exemple, tu veux être le champion cette année pour ta dernière année junior. Je sais qu'il y en a plein qui ne jurent que par ça, quoi.
Forcément, j'aimerais bien gagner, c'est ça, bah, du coup, les championnats d'Europe et les championnats du monde, parce que je fais 4 l'année dernière aux Europes et 2 au monde. Après, bah, ça passe un peu par donner le meilleur de soi-même et donc, du coup,
ouais, c'est un peu moyen, hein. C'est vrai, hein. Ouais.
Je suis pas trop du genre à dire je vais gagner la course avant de l'avoir couru, quoi.
Bah, on te connaît, t'es un athlète quand même qui est assez discret dans sa communication, mais assez bruyant dans ses résultats, donc c'est quand même ce qu'on aime.
Oh, comme c'est beau.
Voilà.
Comme c'est beau.
D'ailleurs, est-ce que t'as une chaîne YouTube?
Non, j'ai pas de chaîne YouTube. Hein.
Non, mais moi, j'ai une question, une bonne question, intelligente contrairement à eux. Non, mais tu sais, dans ton club et tout, quand t'es vice-champion du monde, junior, etc., que t'es à ton âge, est-ce que t'as l'impression que tu dois commencer à avoir un rôle de modèle face aux autres jeunes et qu'il y a une certaine pression parce que le monde va regarder ton comportement et tout, que t'es plus sous la loupe, hein. En tout cas, t'as besoin d'être un exemple.
Alors ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, y a pas de pression par rapport à ça, mais c'est clair que par exemple on me demande un petit peu, ouais, pour les petits par exemple parfois de venir montrer un peu l'exemple. Donc par exemple, c'est tout bête, mais à la piste, quand il y a des éducatifs à faire, bah je peux parfois pas montrer un petit peu aux petits comment faut faire ou même un petit peu, enfin, de manière générale, oui, je fais un peu attention à pas faire n'importe quoi, mais bon, après y a pas de pression par rapport à ça et ne contrôle pas non plus en permanence, quoi.
Qui c'est qui fait attention un petit peu à toi, comment tu te fais encadrer au niveau mental, peut-être pas, hein, mais tu vois, sur par exemple tous tes résultats, tous tes succès, est-ce que t'es avec tes parents, frères et sœurs ou même l'entraîneur qui font attention à ce que tu te crames pas, en fait, même que ce soit, je parle mentalement, en fait.
L'entraîneur, oui, un petit peu, enfin, forcément, il fait attention à ça. Après, là, du coup, cette année, je suis suivi, j'ai un préparateur mental avec qui j'ai commencé là il y a 2 mois. C'est tout récent aussi, donc c'est le Guilain Bandalo. Il travaille à côté de là où j'habite, au CDFA Sorbonne. Mais sinon, j'ai pas de suivi particulier.
T'es chez tes parents encore, César?
J'habite encore chez mes parents, j'ai pas encore bougé.
Et eux, qu'est-ce qu'ils te disent, tes parents? Est-ce que en cadet junior, ils te disent va à la fac et prends tes diplômes et après on verra si tu veux être champion olympique, ou est-ce qu'ils te disent vas-y, donne tout, fais champion olympique?
Alors c'est un petit peu entre les deux, mais bon, ils me disent c'est bien, tu peux faire du triathlon, mais tu fais des études à côté, sinon t'as un peu de triathlon, quoi. Donc j'ai pas le choix de suivre des études, donc là c'est quand même cool, je peux les suivre en distanciel. Donc pour l'entraînement, c'est quand même pratique. Ils mettent pas de pression par rapport à ça, aller en cours. Par exemple, là cette année, j'étais en train de me réorienter, donc ils m'ont pas mis de pression particulière, mais non, je sais qu'il faut quand même que j'assure à côté au niveau des études.
Est-ce que t'as un modèle dans le triathlon? Est-ce que t'as quelqu'un qui t'a vraiment donné envie? Est-ce que tu suis quelqu'un?
Forcément, j'ai un petit peu plein d'idoles. Quand j'ai commencé, c'était forcément, c'était, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était en 2017-2018, donc je regardais Vincent Louis à la télé, donc ça m'a marqué quand j'ai commencé. Et puis maintenant, plus au niveau de la personnalité, j'apprécie vraiment bien Léo Bergère. Je trouve qu'il a quand même une forme d'humilité et quand même, malgré son niveau qui est exceptionnel, ça m'inspire beaucoup. Ouais.
Est-ce que tu as eu l'opportunité de les rencontrer? Est-ce que tu t'entraînes souvent avec eux là sur les déplacements? Et est-ce que vous faites des entraînements communs de temps en temps avec les élites?
Alors, des entraînements communs, non, j'ai jamais eu l'occasion d'en faire avec eux. Après, régulièrement quand même, on a l'occasion de les rencontrer, que ça soit l'année dernière, j'avais été voir le test event, donc c'était cool, on avait pu les croiser un peu, par exemple, en vélo, on les avait croisés à Longchamp. Sur les déplacements aussi, donc l'année dernière, quand j'étais au championnat du monde junior, là, avec l'équipe en junior, il y avait Cassandre et Tom, qui étaient, je crois, chez les élites. Et sinon, enfin, pareil, quand on vient en stage à Boulouris, on a l'occasion de les croiser à la piscine ou quoi, donc on les croise quelques fois dans l'année, mais non, sinon j'ai jamais eu l'occasion vraiment de partager d'entraînement avec eux.
Vous la voyez pas, bien sûr, puisque vous avez pas l'image, mais il y a Jeanne qui nous a rejoint. Et là, ton pronostic pour Nils, pour les Jeux Olympiques, chez les hommes, qui va gagner la course, et chez les femmes, allez, top 3?
Alors, chez les femmes, je trouve que c'est bien un petit peu plus... je sais pas, je me mouillerais plus pour le podium chez les femmes. Je dirais que ce serait je vois Cassandre en 1, Bess Potter en 2 et en 3 Jeanne.
Ils sont payés dans ce podcast pour dire ça, je crois.
Et après chez les gars, c'est un peu compliqué là. J'ai, enfin, c'est peut-être Hayden, Alexis et
un français quand même.
Et après trois, enfin un français, ouais, un français, mais ils sont tous bons quoi. Mais après l'ordre, je sais pas. Je dirais que sur le podium, je vois bien encore Alexis, Hayden Wild peut-être et un français, mais le français impossible de dire lequel quoi. C'est tout bon.
Bah déjà, ça va être dur de voir la sélection quoi.
Au pire, tu mettais quelqu'un d'autre qu'un français si t'avais pas envie de te mouiller entre les français.
Genre un luxembourgeois, mais.
Vasco, personne.
Allez Léo, ouais. Allez Léo.
Enfin, le problème, c'est que Léo, pour le moment, il n'a pas son dossard. Hein. Je veux juste vous le rappeler.
Mais ouais, c'est embêtant. Il est arrivé à futer comme une lame à Abu Dhabi et ils l'ont fait repartir aux France de Cross. Et sachant qu'apparemment, ils ont fait un voyage vraiment galère pour se présenter sur la ligne d'arrivée, donc sur la ligne de départ, pardon, des France de Cross. Donc, je trouve que leur résultat, Léo et Léonie, il est.
Pas galère, ils ont fait Abu Dhabi-Rome, ils ont dormi à Rome, Rome-Marseille.
Je crois qu'ils ils ont fait un voyage de 48 heures, quoi, apparemment. Donc,
non, mais après, c'est qu'ils ont fait des escales en voiture, mais faire un Marseille-Toulouse, c'est pas le pire. Hein. Je peux dire, j'ai fait un voyage bien.
Donc, t'aurais fait mieux qu'eux, alors.
Et Marseille, elle.
T'aurais fait mieux qu'eux, alors.
Ouais, mais j'avais des rendez-vous, alors j'ai pas pu venir, on m'a demandé. Hein, mais...
Tu rêves des JO de Los Angeles?
Ça me paraît tellement loin encore que, enfin, il y a beaucoup de chemin parfois.
Ça passe très vite, hein.
Ouais, ça passe vite, et, ouais, c'est ça. Et puis, dans 4 ans, c'est, j'aurais que 23 ans, donc, dire que j'y pense, non, c'est pas vrai. Pour l'instant, je pense pas au JO, je pense à court terme, les petites étapes qu'il faut passer une par une, plutôt que de me dire, il faut que je sois champion olympique un jour ou quoi, c'est pas trop,
Est-ce que ça te fait peur le passage élite l'année prochaine de faire peut-être tes premiers M? Je sais pas si t'en as déjà fait en junior 1, mais du coup tu vas arriver sur une densité qui va être vraiment différente de celle que t'as pu trouver en junior l'année dernière et que tu vas retrouver cette année, et aussi tu vas te retrouver sur des formats M. Est-ce que ça te fait peur ou est-ce que déjà tu le travailles à l'entraînement avec ton coach le fait de voilà, de passer aussi à la distance supérieure?
Ouais, forcément, il y a un peu d'appréhension par rapport à ça. Après, je suis quand même concentré là sur la saison qui arrive. J'essaie de pas trop penser à l'année prochaine, parce que ça va, il reste encore un peu de temps avant ça. Mais oui, forcément, j'y pense un peu quand même. C'est surtout la densité. Ouais, c'est pas trop les distances, mais c'est surtout la densité qu'il va y avoir que j'appréhende. Donc on fait un peu plus de volume peine à l'entraînement avec mon entraîneur, donc voilà, on travaille un petit peu tous les jours, mais on est quand même plutôt concentré sur la saison qui arrive.
Après, pour la densité, ce qui est bien, c'est si tu signes au SAP Vendée l'année prochaine avec nous, tu pourras un peu connaître la D1. Il y a une belle densité. Et ça.
Allez, ça y est, on place les clubs. Allez, c'est parti.
Ah, attends, on est déjà deux dans le podcast.
T'as un agent, Nils, parce que moi, je peux t'accompagner si tu veux. Hein.
Tu veux se placer, je ne
sais pas. Ouais, mais regarde, il l'a refusé pour le moment, donc voilà.
Là, pour l'instant, je reste là, mais je sais pas.
Sur les jeunes là qui sont avec toi, là, il y a une génération qui est dorée chez les juniors. On a beaucoup de jeunes qui marchent bien, comme Thomas Antmanael et Pablo Isoton aussi, avec Léonie Douché.
Gaspartaro. Les Sables Vendée.
Ilona Adoum, etc. Avec qui là tu t'entends super bien dans ce groupe-là? Ou peut-être que tu t'entends avec personne?
Non, c'est pas. Question. Non, franchement, moi j'ai pas eu de mal l'année dernière à m'intégrer au groupe, parce que bah du coup on était, moi j'étais junior première année, ils étaient quasiment tous junior deuxième année, mais franchement non, je m'entends avec tout le monde, que ce soit Pablo, Gaspard, Thomas, même les filles, Ilona, Léonie, Manon, sur les championnats, c'était vraiment cool, il y avait une bonne ambiance. Et puis après sinon avec les plus jeunes aussi, ceux qui ont l'année en dessous la mienne, donc il y a Milan Larivière avec qui je m'entends très bien, Tristan Douché aussi, on s'entend très bien, avec tous les gars, vraiment, et les filles, je m'entends bien avec tout le monde, ouais. Mais si je dois, par exemple, citer vraiment les copains, il y a aussi Léa Ouar, Manon Paumé, Milan Larivière.
Ah, Milan, on l'a cité deux fois quand même, donc Milan, c'est le pote, quoi. La réunion, elle est là, quoi.
Ouais, 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 bah, c'est... C'est tous les potes, mais ouais, on a notre petit groupe un peu avec Léa War, Manon Pomé, Milan, les quatre. Ouais.
Et il y a un petit jeune qui ou une petite jeune qui t'impressionne dans tout ça aussi au niveau des performances là. Est-ce qu'il y a quelqu'un vraiment qui sort du lot?
Je dirais Ilona Doom forcément. Pour l'avoir vu en stage et puis même ouais c'est ça sur les compètes elle est quand même très impressionnante ouais. Oh, ouais.
Est-ce que tu rêves de faire des T100?
Fais gaffe, ta question est remontée.
Ça existe toujours quand il aura l'âge d'en faire.
L'âge d'en faire. Comme s'il fallait un certain âge pour en faire, quoi.
Non, mais on se comprend, ça va.
Et est-ce que ça t'intéresse, le long? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait rêver, le longue distance? Est-ce que tu regardes ça avec des grands yeux et tu dis, ouais, je vais avoir une carrière sur court et derrière, je vais enchaîner par le long?
Et là, tu as dévié la question. Est-ce que tu rêves de gagner? Non, d'être sur le test.
Ouais, quand même, ça m'intéresse. Je suis les championnats du monde Ironman chaque année. Là, notamment avec... quand c'est à Hawaï ou quand c'est à Nice, même, je suis donc quand même tous les ans. Mais j'avais commencé à suivre un petit peu quand les Norvégiens étaient arrivés dessus. Donc ça fait pas longtemps, ça fait 2-3 ans que je suis un peu plus le long. Et pour l'instant, quand même, je préfère suivre le court distance et puis même me projeter sur du court distance et on verra pour le long plus tard, même si je trouve ça quand même super à regarder. Ouais.
Allez, donc on passe au débat de la semaine avec donc Nils qui va rester, qui nous fait le plaisir de rester avec nous. Alors Alex, est-ce que tu peux nous lancer le thème du débat?
Je ne m'étais pas préparé, mais vu ce week-end, qui était vraiment un incroyable week-end de rentrée pour le triathlon, et qu'on s'est dit à quel point ça nous avait manqué tous ces événements à regarder en web diffusion et te dire qu'il se passait absolument rien. Ben, moi, j'y suis arrivé à la conclusion que le triathlon va mourir. C'est clair et net. Au bout d'un moment, là, c'est comme genre, ça fait des années, des années qu'on nous parle tout le temps de réinventer le triathlon. Et je vais le dire juste une seule fois. Bravo Maca, parce que la super tri, qu'est-ce que t'as fait, c'est génial, et que finalement il y a juste toi qui comprends qu'est-ce que ça prend pour faire une belle course et créer des événements comme à Toulouse, qui est vraiment une réussite exceptionnelle, parce que PTO, ça fait des...
Je trouve presque un peu trop long,
mais
si c'est
parce qu'il a liké un de mes tweets, fait que là je me suis dit ça y est, je suis grand, ah, quelqu'un. Okay. La réalité c'est que PTO, ça va faire 3 ou 4 ans. Il y a un père d'un athlète qui m'a d'ailleurs écrit, qui faisait la course, qui m'a dit: ces abrutis, ils ont jamais rien compris depuis Samourin. Il s'entendra, il sera très content. Mais c'est exactement ça. La diffusion, ils ont rien compris. Tu te dis, hey, c'est pas comme si Garmin sponsorisait la course parce que eux, ils auraient mis vraiment, tu sais, de la data là, tu sais, comme parce que c'est ça qu'ils vendent, quoi. Ben non, ben c'est eux les sponsors et il y avait absolument rien. Pendant plus de 2 heures, on savait même pas c'était quoi la distance restante sur les courses des hommes. On savait pas c'était quoi les temps autour. On savait pas. On savait absolument rien.
Attends, un petit peu, on va reprendre un petit peu la question, puisque là, à la base, c'était juste de présenter le débat du mois, de la semaine. Donc, la question, c'est: est-ce que le triathlon va mourir? Et je trouve que ça va très bien avec Nils, qu'on invite aujourd'hui, qui est un petit jeune qui veut se lancer dans le triathlon.
Il a une carrière en course à distance.
Bienvenue.
Nils, la question que je posais tout à l'heure.
Donc, prends une licence, garde ta licence d'athlète, hein, Nils, hein, parce que. Toi déjà, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que le triathlon est en plein essor et tu vois une belle ascension du triathlon, Nils? Ou est-ce que effectivement tu vois des événements qui essayent de se construire mais où c'est un petit peu bancal, ça peut faire mourir le triathlon?
Bon, moi je trouve que pour l'instant le triathlon c'est plutôt en essor. On voit que il y a de plus en plus d'organisations différentes, donc c'est vrai que ça devient un peu compliqué de tout suivre, mais non, je pense que la Super League a beaucoup amené, je trouve que ouais, c'est en essor quand même.
Nils, tu iras regarder triathlon live et tu vas regarder les courses il y a 20 ou 30 ans et tu vas voir que durant toutes ces courses, il y avait énormément de public à côté des courses. Partout, il y en avait partout. Ouais. Tu sais, c'était pas comme maintenant où on a décidé d'aller à Abu Dhabi, où on savait qu'il allait avoir absolument personne, que c'était sur un circuit, et qu'en plus, les autorités, on avait tellement rien à faire de l'événement, parce qu'ils avaient payé, ils pouvaient dire, oh, ben, vous faites pas la course, on s'en fout. Bravo, Jeanne.
Alors, moi, je suis plutôt Team Nils. Et je trouve que le sujet est assez intéressant parce que bon, voilà, je partage vraiment l'avis de Nils. Je trouve que il y a beaucoup de choses qui se développent au niveau communication, au niveau sponsor, au niveau mécène. Il y a pas mal de nouvelles organes qui débarquent également. Alors sponsor, oui. Alors on pourra en parler plus tard parce que pour avoir ton avis aussi. Mais je voudrais savoir en fait pourquoi tu es autant excessif dans cette phrase. Pourquoi en fait, quels sont tes arguments pourquoi dire que le triathlon est mort? Hyper intéressant. Mais...
Allez. Parce qu'on n'a rien appris de ce qui s'est passé dans les dernières années. En fait, on n'est pas capable d'améliorer le produit. Ce truc qui est mieux, c'est Supertri, à la limite.
Ok, mais c'est-à-dire, non, mais tu peux parler concrètement en donnant des exemples, en fait, par exemple, les
historiquement. Ok, on va prendre comme WTCS, qui était une super formule à la base. C'est quoi la WTCS? Ça a commencé début 2010, 2009. Ça veut dire que ça fait déjà 15 ans. Moi, j'ai vu, j'ai vu l'évolution où toutes les grandes villes icônes du triathlon ne veulent plus la course. Auckland, Sydney, Madrid, on les a tous perdus, ces beaux événements-là.
Bergen.
Ouais, Bergen. Même Bergen en Coupe du Monde. On les a tous perdus et là, maintenant, on est rendu esclave du sport washing, d'une certaine façon, ce qui veut dire Abu Dhabi, même une autre...
Pourquoi on les a perdus? Pourquoi on les a perdus ces villes? C'est quoi, c'est financier?
Il n'y a pas d'argent.
Donc c'est financier, mais
en fait, c'est la ville qui doit payer pour faire venir le
prix. C'est hyper cher. Je ne sais plus avec qui j'en discutais la dernière fois. On m'a dit le prix, c'est immonde. Est-ce que tu as le prix exact?
Ah, c'est à peu près 500 000 facile, ouais. Déjà, juste en droit, World Triathlon plus télévisuel, parce que tu dois assurer la diffusion et ainsi de suite. Ça veut dire que World Triathlon, pendant toutes ces années, là, ils n'ont jamais été capables de développer, une économie en interne. C'est que c'est l'organisateur qui devient...
Après, c'est qu'il y a aussi, pour la défense des villes, c'est de plus en plus difficile parce que Claire, elle en parlait la dernière fois. Maintenant, par exemple, pour les swim behavior, tu dois avoir des hélicoptères, des drones, des machins. Et bon, Abu Dhabi, hyper développé, sans doute qu'ils les ont, mais tu vas dans des bleds, enfin, même pas des bleds, des capitales un peu plus old school, on va dire. C'est pas dit qu'ils ont un hélicoptère à mettre à disposition et des drones pour checker tout le monde.
En fait, il faut faire venir du monde, il faut créer de la valeur marchande, il faut vendre des droits, etc. Faut faire de la nuitée. C'est comme ça que tu monétises aussi tes villes et c'est comme ça que tu peux arriver à un équilibre financier.
Ouais, puis on a vu ça avec Miami, quoi.
Je pense pas que le triathlon va mourir. Je suis pas aussi extrême qu'Alex là-dessus.
Mais le problème, c'est qu'est-ce que le triathlon est assez populaire pour qu'une ville puisse s'engager d'un point de vue matériel, d'un point de vue moral également et d'un point de vue financier, parce que c'est très très lourd. T'imagines minimum 500 000 pour les droits. Donc après, t'as toute la logistique.
Non, mais après, il y a des valorisations. C'est pas forcément, tu vois, Super League, c'est entre 500 000 et 1 million d'euros pour une ville. Derrière, t'as des retombées qui étaient estimées à 1,3 million. Donc,
bien sûr, donc, mais l'engagement.
Il y avait quand même des gains qui étaient estimés. Après,
l'engagement initial, faut y aller, quoi. L'engagement initial, il faut y aller, tu vois.
Après, c'est si t'as une course groupe d'âge aussi, peut-être.
Ah bah oui. Et puis, faut y aller. Après, où je suis d'accord avec Alex, c'est que il y a eu aucune évolution. Et ce qui devait révolutionner le triathlon, c'est-à-dire que dans l'approche commerciale, dans l'approche marketing, dans l'approche communication, Tessan c'est quand même a sorti un slogan qui nous redéfinissons le triathlon. En gros, la première épreuve qu'ils organisent, on a quand même des femmes qui courent dans le noir parce qu'il y avait zéro public. Une retransmission qui se fait dans le noir.
Je connais des grands prix qui ont voulu organiser des nocturnes.
Ouais, non, mais les nocturnes, je pense que ça peut être une super idée, une nocturne. Franchement, je pense que ça peut être.
Mais la nocturne, ça peut être une super idée.
Hein. Après, je pense que pour le coup, elle courait dans le noir, mais il n'y avait pas des gros spotlights.
Oui, non, mais nous, on les voit dans le noir. Mais comme il n'y a pas de public, en fait, la base, en fait, ce que vend Tessan, c'est aussi une retransmission télé. C'est comme ça qu'ils valorisent leurs produits. Là, en l'occurrence, tu voyais les commentaires, mais c'était horrible. Sur YouTube, les sons, etc., il y a eu des coupures des commentaires.
C'était la première. Il leur faut peut-être...
Mais à ce niveau-là, tu peux pas te rater.
Mais tu peux pas dire ça, la première, Jeanne, ça fait 3 ans qu'ils sont là.
Tu peux pas te rater à ce niveau-là. Et alors, Clash Endurance, c'était en fait la même chose. PTO, c'était en fait la même chose. Et Tessa, en fait, c'est la même chose, ce qui fait qu'on redéfinit rien du tout.
Mais tu vois, je suis d'accord avec vous.
Ah, la Collins Cup.
Je suis d'accord avec vous.
qui était à la limite leur meilleure idée à la base, finalement, là, avec du recul.
Moi, je suis pas d'accord là. Je suis pas d'accord là de critiquer un petit peu des villes comme Abu Dhabi qui accueillent et que les autres elles sont plus là. Bah, si les autres elles sont plus là, c'est qu'elles ont pas le budget à mettre sur la table. Et moi, je dis bah merci à des villes comme Abu Dhabi d'accueillir une manche du championnat du monde, parce que sinon on aurait combien, on aurait 4-5 manches si tu retires.
Non, mais c'est la question en fait, c'est pas qui veut bien payer, c'est est-ce que le World Triathlon doit demander autant, parce que bah c'est l'inflation partout, tout augmente, alors et ça devrait peut-être pas être la priorité, et ça devrait peut-être baisser pour que justement des villes qui ont envie de le faire puissent le faire, parce que des fois c'est même pas un manque de volonté, c'est vraiment un manque de moyens.
Ouais, mais si elle demande autant, c'est pourquoi derrière, est-ce que c'est pour financer du prize money, pour mettre une organisation
c'est
qui est
après Alex, c'est pour ultra, les petits fours,
qui est ultra, c'est pour les petits fours, hein. C'est que... mais non, mais
bah je sais pas, en fait je sais pas, en vrai faudrait faire une vraie analyse de budget.
Mais non, mais après, enfin ça c'est le business model, tu m'as le foutu en fait.
Ok, je vais t'expliquer rapidement. La WTCS, ils ont créé un modèle. Ils ont créé un modèle qui est pas rentable et c'était comme genre, va faire des courses dans des communautés qui veulent avoir des courses. Tu sais, genre, il y a plein d'endroits où tu vas créer un produit intéressant pour penser au long terme, où là, finalement, le monde, ils vont tellement trouver ça intéressant, tes courses, qu'ils vont vouloir voyager pour venir les voir. C'est ça qu'on doit espérer. Comme Abu Dhabi, au début, ça a dû être ça, leur pensée, c'est-à-dire, hey, on va faire des courses à Abu Dhabi, ça va attirer les touristes, ils vont venir regarder la course. Au résultat, la course, elle marche pas, parce que t'es sur un circuit vide. Tu dégages rien. Et il y avait quelqu'un que je trouvais qui était ça, il disait que tu sais, le triathlon avait perdu comme
Bah, peut-être un côté nouveau aussi, parce que les gens avant ils connaissaient pas, ils s'intéressaient par
Ben oui, il y avait le côté surfeur, tu sais, aventurier du triathlète et tout, tu sais, il y avait un côté cool, c'est comme
après c'est pas le seul sport, hein. C'est pas le seul sport où Abu Dhabi ou tous les pays des Émirats et etc organisent des épreuves, et les épreuves et les sports sont toujours là, hein. Tu vois, la F1 par exemple, voilà, mais il y a du public qui vient aussi, donc c'est notre problématique. J'avais juste une question, on parlait des prize money tout à l'heure, Niels, jusqu'à présent, c'est quoi ton plus gros prize money que tu as pris, si tu veux bien le dire?
Alors du coup, nous sur les courses en junior, il n'y a pas de prize money, après j'ai la chance d'avoir un contrat avec ASICS.
C'était tout ce que je voulais que tu dises. Bah voilà, où passe l'argent aussi, et c'est aussi une des problématiques, c'est que comme on n'a pas d'argent, bah tu vois, il y a les paras qui touchent pas de prime, les juniors qui touchent pas de prime, et c'est vrai que c'est un des bons côtés quand même d'avoir les Émirats. Bon, certes c'est du sport washing, mais qui serait prêt à payer pour voir du triathlon? Et si on n'a pas d'argent, comment tu veux qu'on augmente un petit peu le fait de vivre? Pardon, Nils, c'est un contrat ASICS, tu disais. Excuse-moi.
Du coup, j'ai une petite rémunération comme ça, mais sinon, sur les courses, non, j'ai jamais rien reçu.
Et tu trouves ça normal?
Il est en train de se faire engueuler.
Non, oui, quelque part, et non, quelque part aussi, quoi. C'est, on est mineur, donc je peux comprendre.
Moi, je trouve ça un petit peu abusé que les gars, c'est les meilleurs mondiaux. Ils sont juniors, ils ont 18-19 ans dans leur année junior 1 ou junior 2. Et les gars, ils sont pas payés, et c'est les meilleurs du monde. Je sais pas, tu peux être plombier à 18 ans et te faire un salaire, etc. Et je comprends pas pourquoi on paye pas des gens qui sont majeurs, quoi. Donc, je trouve que c'est dommage qu'il y ait pas même des primes, qu'elles soient, je vais pas dire minime par rapport aux adultes, qu'elles soient moins conséquentes forcément, mais qu'il y en ait quand même pour récompenser ça. Les gars,
quand junior, t'es pas de prime.
Bah attends, t'imagines,
t'as junior, t'es encore jusqu'au cours, après tu choisis, est-ce que tu veux être un professionnel, si ou est-ce que tu veux
tu faire prends un taf normal. Et tu prends le parcours d'un Français, t'as 19 ans, ça fait déjà un an que t'as eu le bac, t'es champion du monde junior, t'as pas pris une thune de l'année, si jamais tu cours pas en D1 et tout. Certes, tu as peut-être des aides avec ta fédé ou avec des sponsors qui veulent bien t'envoyer 3 paires de chaussures et 100 ou 200 euros par là. Mais en attendant, les gens de ton âge, ils travaillent et ils ont de l'argent, quoi. Alors que toi, tu travailles sûrement en termes d'implication horaire.
Après, des triathlètes qui travaillent à 19 ans, il n'y en a pas non plus masse.
Hein. Je ne parle pas de triathlètes qui travaillent à 19 ans. Mais...
Et en athlète, Niels, sur la run de Monaco, tu as pris un chèque?
Non, non plus. Non plus, ouais, y a pas de...
Non plus,
ouais.
Ah, tu vois, ça me choque plus, parce que pour le coup, c'était une course pas jeune, c'était une course normale.
Et puis c'est à Monaco quand même.
en plus. Ouais.
Mais ça pose une question qui est super intéressante, par exemple. Est-ce que tu ressens une pression financière dans le sens que face à tes parents, puis tout, ça leur coûte quand même assez...
C'est complètement vrai par rapport au début du sujet. Hein,
ouais, non, mais je sais, mais je trouve ça...
Là, peut-être pas, parce que tu vois, le triathlon peut mourir du fait qu'il n'y ait pas d'argent qui soit donné à leurs élites et que...
Bah aussi, ouais.
Je pense qu'il ne mourra pas à cause de pas d'argent chez les juniors, ce sera peut-être chez les adultes.
Non, mais il va mourir parce que... Vu que ton sport, il te coûte de plus en plus cher pour le pratiquer... Même pour les jeunes, comme qui veulent atteindre un certain niveau, tu as une pression financière qui devient de plus en plus grande parce qu'on leur demande de faire plein de voyages, on leur demande de dépenser pas mal de cash pour un vélo. Le vélo, il coûte plus 3 000, là, il coûte 15 000 pratiquement. En tout cas, j'exagère peut-être un peu, mais je veux dire, tu sais, ça met une pression face aux parents et tout de sortir l'argent. Puis je peux ressentir que en étant parent, tu sais, je serais comme, est-ce que je veux vraiment que mon fils il aille dans le triathlon parce que ça va me coûter une blinde? Versus la course à pied.
Tu vas casser les rêves de tes enfants pour une histoire d'argent? Oh là là là.
Bah, ma fille fait pas de triathlon, elle fait de la course à pied. Parce que au final, aussi, pourquoi le triathlon est en train de mourir? C'est parce que tu as d'autres alternatives à des expériences similaires au triathlon qui vont te coûter moins cher. Vélo de gravel, en tout cas, il y a plein d'autres affaires.
Le gravel, c'est pas la même chose, Cimer.
Pour des personnes amateurs, ça reste qu'ils en tirent à peu près la même chose, comme la nouvelle popularité du vélo ultra distance et tout. Je sais que mon collègue Tim me disait à quel point il s'était rendu compte que les inscriptions en Ironman se cassaient vraiment la gueule. Je sais qu'en France, vous allez me dire que c'est pas ça, probablement parce qu'il y a un effet Nice, etc. Mais qu'il y a énormément de courses aux États-Unis qui proposaient un Ironman et un 70.3 dans des journées différentes et qui regroupent tout, ou même, comme à Mont-Tremblant, annulent le Ironman et ne gardent uniquement que le 70.3, ce qui est quand même assez significatif sur le développement du sport à long terme.
On n'a jamais eu autant de licenciés en France.
Ouais, là, on est sur un record cette année, je crois, d'adhérents 65 000.
Ouais, mais vous êtes l'exception française. Et de toute façon... Les Français, vous êtes toujours en retard de 5 ans, fait que vous allez vous le manger en pleine face dans 5 ans.
Mais t'es français, hein?
Non? Si. Ah merde.
Si.
Ouais, non, après, il a pas tort, Alex, que ça peut se faire en décalé. Après, avoir, est-ce que ça va se faire en décalé ou est-ce qu'il y a juste deux cultures différentes et une vague de mode aux États-Unis où c'est vive le gravel et que chez nous, bah, on va.
La question, c'était sur le triathlon, va-t-il s'éteindre? Est-ce que, par contre, on pourrait plus dire que, quelle chance, espérance de vie vous donnez au Tessin?
3 ans.
Non, moi, j'attends de voir d'autres.
Pour que Nils, il n'ait pas l'occasion d'en faire.
Bah, 3 ans. En regardant la course des femmes, tu peux te demander s'il n'y avait pas quelqu'un qui avait déjà débranché le truc.
Ouais, moi, je pense que là, ça va être un fiasco cette année. Après, ils vont peut-être sûrement faire des ajustements et apprendre de leurs erreurs.
Voilà, s'ils pourront les faire.
Bah, ils vont apprendre de leurs erreurs. S'il leur reste encore un peu de pognon, ils vont faire les ajustements qu'il faut.
Nous, on considère que c'est des erreurs, mais eux, peut-être pas. Peut-être qu'ils voulaient faire un truc.
Non, mais ils peuvent. C'est sûr que la formule qu'ils nous ont proposée à Miami, clairement, elle va pas durer. Mais je pense qu'ils s'en sont déjà pris plein la tête et ils sont déjà en train de penser aux manches prochaines pour pas réitérer un fiasco pareil.
Après, moi, je pense qu'ils se sont plus concentrés sur tous les trucs un peu réseaux sociaux, les inside et tout, et qu'ils ont pas pensé à la course. Ce que j'ai suivi de loin et j'ai cru voir plein d'interviews, plein de face-to-face entre athlètes, enfin plein de trucs de avant-après. Mais c'est vrai que la course, c'est comme s'ils avaient dit, bon, il faut quand même une course, que c'est notre produit principal, mais qu'ils ont que travaillé sur les à côté.
Ouais, mais même sur la com, tu vois, sur la com, regarde, communique des start list, alors qu'ils sont très, ils savent très bien qu'il y a des athlètes qui vont pas venir.
Et, par contre, est-ce qu'on peut parler de Brunley, qui a fait la course et qui a animé la course? Moi, je pensais qu'il ne prendrait pas le départ.
Il a pas animé, il s'est caché derrière Matisse. Il a fait une Alistair. De toute façon, je pense qu'on va baptiser ça, faire une Alistair. C'est-à-dire que tu pars à bloc et tu pètes à 3 km de l'arrivée.
Mais c'est ça, ce que
moi, je pense qu'il n'a jamais été aussi proche d'un vrai retour. Là. Je commence à y croire qu'il peut revenir vraiment fort. Là. Non, mais juste sur un truc positif, parce qu'il faut quand même que je dise un truc positif. Je pense que la PTO, on pourra vraiment avoir un vrai jugement à partir de San Francisco. Parce que sur le calendrier, c'est la seule course qui annonce un parcours comme on l'espère, d'une certaine façon.
Non, ils n'ont pas annoncé le parcours.
Oui, mais...
Ils ont annoncé la course.
Ouais, c'est vrai. Ils pourraient nous tuer le truc en disant ils font le vélo que dans Presidio, qui est quand même une sorte quartier fermé. c'est une probabilité. Mais s'ils font le vrai parcours de Alcatraz,
ah là, ça va être une boucherie.
Là, je pense qu'on va enfin avoir une vraie course, un truc vraiment intéressant. J'espère que les pros vont jouer le jeu et qu'ils vont venir.
Après, c'est vrai que la course homme était intéressante quand même.
Parce que Matisse était en avant, sinon...
Non, mais c'est vrai qu'Alistair, c'est vrai qu'il nous a fait un petit truc. Sam, on ne pensait pas qu'il allait être tout de suite à ce niveau-là.
Ouais, il y a eu du rebondissement. Il y a eu du rebondissement quand même.
Mais on ne peut pas trouver une course intéressante sur un circuit de NASCAR.
Après, cela dit, chez les femmes, je pense que tout le monde aurait mis Lucie première et elle n'a pas gagné. Donc j'imagine qu'il y a eu des rebondissements.
De toute façon, on n'a pas regardé. Mais...
90% des courses de Lucie, c'est toujours ça. Hein. Elle part première puis elle perd. En tout cas.
Bon, elle est quand même championne
oui,
du monde.
Oui, mais c'est ça. Elle l'a fait à Nice. Non, à Kona. Mais ça n'a souvent pas été ça.
Dites-nous en tout cas en commentaire, pour ceux qui écoutent, en commentaire du podcast, dites-nous dans les stories qu'on vous mettra si vous aussi vous pensez que le triathlon va mourir comme Alex, ou est-ce que le triathlon va vivre.
Non, il va pas mourir, il va se ringardiser. Le triathlon existera toujours.
Attends, moi, je voudrais, le mot de la fin, je voudrais dire, en fait, je pense que le triathlon ne va pas mourir, comme pourrait le dire Alex.
Mais va se réincarner.
Mais en fait, je pense qu'il va se réincarner. Non, presque. En fait, il évolue. Moi, je trouve que le triathlon évolue. Et puis, en plus, il faut un peu distinguer. En différent. Il y a des aspects qu'il y avait fait il y a quelques années, tu vois. Toutes ces organisations, le PTO, la Super League, tout ça, avec les BSN, c'est des choses qu'il n'y avait pas avant, donc il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux financiers.
Super Tri maintenant, il faut dire. Super Tri.
Super Try.
Super Try.
Il y a beaucoup.
Et t'aimes bien, tiens d'ailleurs, en parlant de Super Try, Niels, t'aimes bien le format e-Super League? E-Super Try?
Ouais, perso, je trouve ça original, mais je ne suis pas hyper fan, je préfère quand même le format en extérieur. Ouais, le format extérieur est quand même plus cool avec tous les différents types de courses, l'enduro.
Et le format indoor style Liévin?
Ah ouais, ça par contre, je trouve ça bien. Parce que le fait que chacun court de son côté sur un tapis, sur un vélo ou quoi, je trouve ça casse un peu la course, quoi. Il n'y a pas la même tactique.
Et tu seras toi à Liévin?
Je pense pas. Je pense que je vais suivre. Je crois que c'est retransmis sur l'équipe, mais je pense pas y aller. C'est le 23 mars. Non, c'est un peu.
Mon anniversaire.
Merci en tout cas. Merci à tout le monde. On va en rester là. Donc, dites-nous dans les commentaires du podcast ce que vous en pensez. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous. Vous pouvez également nous verser des cafés via Buy Me a Coffee. Et puis, les différents réseaux sociaux à suivre avec Niels. T'es présent sur les réseaux un petit peu?
Ouais, sur Instagram et c'est tout.
Et ben voilà.
T'as le droit de dire TikTok si t'as TikTok. Hein. Jusqu'à maintenant, personne ne m'a dit, mais...
Et c'est pas public.
Ah, c'est pas public? Ah bah, il va falloir qu'on s'abonne alors.
C'est que des vidéos cheloues, on veut pas les voir.
Ouais, nous, il nous faut les trucs chelous, quoi.
Non, mais il n'y a rien dessus, c'est juste pour suivre, mais je pense que rien.
Ok, ça marche. Et puis, Jeanne Leher, que vous pouvez suivre sur son vlog aussi, sur YouTube. Vous avez Jérémy Quindos aussi, avec Consultry également. Trims, donc Alexandre nous a appris qu'il allait reprendre un petit peu sa plume pour écrire sur Trims. Et puis, Amandine aussi, que vous pouvez suivre sur les réseaux. Et la chaîne du triathlon, bien évidemment. À bientôt. Salut, bonne semaine.
Ciao.
Salut.
Salut.